Alors on se retrouve en direct du Festival International du Film d'Histoire à Pessac et on reçoit à présent au micro Valérie Mans. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très très bien. Merci.
Alors on vous retrouve dans le cadre de ces festivals avec non pas un, non pas deux, mais trois films qui sont projetés, dont un en compétition, on va en parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente pour vous de revenir participer une nouvelle fois à ce festival ?
Je suis très très heureuse d'être là, je suis déjà venue à trois reprises. Mais là, c'est la première fois que j'ai autant de films et je trouve, j'aime énormément ce festival et je trouve que la programmation est toujours très intéressante et avec beaucoup de diversité, beaucoup d'écritures nouvelles, modernes. Et là, l'idée que je puisse montrer dans une telle qualité de projection les films, c'est vraiment un très grand plaisir.
Alors aujourd'hui, on va commencer par l'Odyssée d'Albert Londres. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter la genèse de ce projet et notamment pourquoi vous avez souhaité travailler sur ce personnage en particulier ?
Alors la genèse du projet, c'est qu'en fait, cette année, ce sont les 90 ans du prix Albert Londres et qu'à cette occasion, avec les producteurs de Gédéon, il a été question de travailler, de faire un portrait sur Albert Londres, sachant que il n'y avait eu aucun portrait de lui, ce qui est complètement incroyable, compte tenu de son influence et de sa personnalité et de la force de ce qu'il a pu écrire. L'idée était de faire pour la première fois un portrait d'Albert Londres. Et de mon point de vue, je suis d'une famille de journalistes. J'ai été un peu biberonnée à Albert Londres. Et par ailleurs, ma famille a le bureau d'Albert Londres, puisqu'en fait, j'ai un de mes grands-oncles qui a reçu le prix Max-Olivier Lacan en 1958, donc ça date, parce qu'il avait couvert l'indépendance de l'Inde et la guerre de Corée de 1953. Et s'est beaucoup occupé du prix Albert Londres avec Floris, qui était donc la fille d'Albert Londres. Il s'est beaucoup occupé du prix et donc, à un moment, la fille d'Albert Londres a décidé de léguer le bureau de son père. Voilà, donc c'est aussi que c'est un bureau qui est dans ma famille donc, depuis lors et que donc j'étais très très heureuse de pouvoir me plonger dans sa vie et dans son œuvre.
Vous avez un vécu direct avec le monde du journalisme et la profession. Est-ce que l'Odyssée d'Albert Londres, c'est une sorte de film hommage aux origines de la profession du reporter un peu en herbe, grandiloquent ?
Absolument, c'est vraiment un hommage à ce que c'est que le grand reportage. Le photojournalisme aussi, puisque Albert Londres va également prendre des photos. C'est un hommage à la profession de grand reporter, sachant que les risques qui sont pris, les dangers qui sont encourus, la nécessité d'imposer et d'alimenter une indépendance d'esprit. À l'époque, ils pouvaient partir 11 mois en Extrême-Orient. Aujourd'hui, plus aucun journal n'a les moyens de financer ce type de reportage. Donc c'est aussi un mythe parce que c'est un moment un peu rêvé de l'exercice du journalisme, sachant qu'il est mort en 1932 et beaucoup de personnes qui ont écrit sur lui disent que finalement, il est peut-être mort à un bon moment puisque après, avec la montée des extrémismes, les journalistes vont devoir beaucoup s'engager. Et donc cette indépendance d'esprit va poser beaucoup de questions. Lui est vraiment un moment charnière et évidemment un moment où la presse tire à des millions d'exemplaires et donc il avait une influence absolument colossale puisque suite à certains de ses reportages à l'Assemblée nationale il y avait des débats et aujourd'hui aucun journaliste ne peut avec un reportage susciter de débats à l'Assemblée, enfin. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment un mythe, un père fondateur du grand reportage.
C'est un précurseur dans son domaine. Dans le documentaire que vous nous proposez, au niveau de la forme, on voit Albert Londres qui est joué par un acteur de la Comédie française. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce choix de casting, de mêler un peu la fiction avec le réel ? Il y a aussi des lectures d'articles écrits par Albert Londres.
En fait, ce qui était extraordinaire avec la genèse de ce documentaire, c'est qu'il y avait énormément de matière documentaire, puisque j'ai démarré un montage avec 90 heures d'images d'archives, ce qui est énorme. Nous avons eu, grâce aux ateliers Albert Londres, l'accès à 1700 photos. La SCAM a prêté 300 cartes postales que Albert Londres avait envoyées à sa fille. Et Londres lui-même a écrit, ça a été publié en deux volumes, 2000 pages. Donc en fait, face à cette masse gigantesque, je me suis vraiment demandé comment je vais pouvoir faire ce portrait, comment je vais pouvoir en parler. Et du coup, je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant, c'était de créer deux espaces, l'espace du bureau, l'espace intérieur, l'espace mental, l'espace de la création et le monde du dehors. Parce que la question que je me pose, c'est comment aujourd'hui on peut restituer la réalité de ce qu'il a vu. C'est-à-dire que je me suis dit que le regard de Londres, c'était ce qui m'intéressait, plus que sa vie privée, sachant que c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à l'écriture. Donc c'est aussi le film sur un écrivain, sur un poète. C'est comment on restitue ce regard. Et donc, dans le film, il y a beaucoup d'extraits de certains de ses grands reportages. Et donc, il y a cette plongée dans le monde, avec Albert Londres qui part aux quatre coins du globe, et cet espace mental du bureau, de la création, de la préparation, de la documentation. Et donc, j'ai imaginé que ce serait intéressant qu'un acteur incarne Albert Londres dans cet espace-là, puisque on a énormément de photos de lui, on a très très peu d'images de films de lui. Et voilà, je voulais créer cet espace, sachant que, ça c'est une grande joie et une grande belle surprise, c'est que Nicolas Lormeau, qui est l'acteur qui incarne Albert Londres, en réalité, il y a 4-5 ans, a fait un spectacle à la Comédie Française, un seul en scène, où il incarne Albert Londres, puisqu'il a une passion pour Albert Londres, et il a joué un reportage qui s'appelle « Les forçats de la route ». Et donc, il y a un moment où je me suis dit « c'est tellement incroyable ». Et donc, la Comédie Française nous a prêté son costume. Donc, un passionné d'Albert Londres qui avait joué Albert Londres et qui, par ailleurs, ressemblait à Albert Londres, je me suis dit que c'était effectivement un signe que mon intuition était juste.
C'est assez incroyable dans le documentaire parce qu'on voit toute l'influence qu'Albert Londres a eue sur toute une époque, parce que ses articles étaient beaucoup lus, parfois jusqu'à 10 millions de lecteurs quotidiens. Comment on traite un personnage qui a marqué les imaginaires, qui a vraiment qui a imprimé un récit? Et c'est un peu ce récit qui était pris pour argent comptant pour les gens qui lisaient la presse et qui attendaient avec impatience aussi quand ils partaient beaucoup en voyage, c'est beaucoup expliqué. Et les gens attendaient un peu les récits, les reportages d'Albert Londres comme une sorte de feuilleton. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a passionné dans son approche ?
Alors absolument, sachant qu'effectivement certains des quotidiens dans lesquels il a travaillé pouvaient tirer jusqu'à 2 millions d'exemplaires, mais c'est vrai que la presse, de manière globale, tirait jusqu'à effectivement 5 ou 10 millions d'exemplaires dans l'entre-deux-guerres, même si elle commençait à avoir une crise à cette époque, notamment à cause de la Première Guerre mondiale où toute la propagande avait refroidi beaucoup de lecteurs. Et ce qui était fascinant par rapport à ça, c'est vraiment de voir le fait qu'il y a un reportage, il est publié, et là, il y a l'Assemblée nationale, et les députés s'emparent du débat, et par exemple, les bagnes civiles et militaires sont fermées en 1936. Voilà, donc cette influence, aujourd'hui, je ne vois pas qui pourrait incarner ça, cette influence-là. Maintenant, la question, c'était vraiment comment, à partir de l'exotisme, de la beauté de ce qu'il découvrait et de l'horreur de ce qu'il découvrait, comment on traduit ça à l'image et comment on fait en sorte que les téléspectateurs ressentent avec la même violence ou le même émerveillement, la force de ce à quoi il était confronté, en fait.
Il était assez paradoxal, ce Albert Londres, parce qu'en même temps, il avait une passion pour aller découvrir des choses et les raconter, mais dans le même temps, ça le traumatisait aussi. Ouais. Est-ce que écrire ses articles, publier ses reportages, c'était une sorte d'exutoire pour lui, de transformer par l'écriture les atrocités, les horreurs qu'il voyait?
Alors peut-être que c'était un exutoire. J'avais lu qu'il avait parfois du mal à écrire. Il écrivait énormément. Chaque grand reportage, il y avait 25 articles, donc il écrivait beaucoup. Mais parfois, il lui-même disait que voilà, c'était un sacerdoce et que c'était quelque chose de difficile. Un exutoire sans doute, mais ce qui est certain, c'est que à partir du moment où donc il a couvert beaucoup de guerres, hein, puisqu'il a commencé comme correspondant de guerre, mais à partir du moment où il a décidé vraiment de couvrir une aventure sociale et de descendre dans ces bas-fonds de l'âme humaine, à chaque reportage, il revenait extrêmement affecté, meurtri, révolté. Donc il a beaucoup dénoncé. Mais moi, j'ai l'impression que Il s'est vraiment consumé de l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que la violence à laquelle il était confronté l'affectait énormément. Et chaque fois, il revenait fatigué. Après, il repartait. C'est une vraie odyssée. Donc, il avait cette énergie de repartir. Mais je pense qu'il y avait quelque chose de très... c'était quelqu'un de très, très sensible. Voilà, il était poète avant d'être journaliste. Et donc, il continuait. Et ce qu'il y a de plus beau, je trouve, dans ce personnage, c'est que... à chaque fois qu'il se confrontait lui-même, il appelle les bas-fonds de l'âme humaine, au lieu de remonter plus dur, plus amer ou seulement en colère, il remontait plus humain, plus sensible. Et ça, c'est une leçon de vie que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que souvent, quand on a des épreuves, on a tendance à se raidir, se durcir. Et lui, en fait, à chaque fois, il y avait donc cette humanité qui... ne cesser de s'amplifier en lui. Et ça, je trouve ça vraiment très puissant, en fait.
Dans le monde du journalisme, on parle beaucoup de neutralité journalistique. Lui, c'était pas du tout son cas.
Non.
Est-ce que c'était une sorte de lanceur d'alerte de l'époque ou de militant
absolument,
de la vérité,
absolument.
De l'information ?
De toute façon, je ne crois pas du tout à la neutralité du journaliste, hein, mais oui, c'était un lanceur d'alerte, puisqu'il avait une influence incroyable. Et en même temps, il avait aussi beaucoup d'humour. Je pense qu'il avait vraiment, le fait de publier, dès que ses reportages sortaient, c'était vraiment chaque jour. Donc les gens s'arrachaient les journaux et il y avait vraiment ce côté feuilletonnant. Là où il était très pionnier, c'est où il se mettait en scène pour que le lecteur ait de l'empathie pour lui. Et c'est le premier à avoir écrit à la première personne du singulier. Et ça, c'est très, très, très moderne, en fait, d'avoir fait ça. Et voilà. Et donc, du coup, je pense que... lanceur d'alerte, mais un lanceur d'alerte particulièrement doué pour l'écriture, particulièrement humain, particulièrement documenté. Il travaillait énormément, il préparait énormément ses enquêtes. Il revenait, donc il écrivait sur ses carnets et il lisait beaucoup et même en revenant, il se documentait énormément. Donc c'est aussi un travailleur acharné.
Pour lui, on voit que la profession de journaliste, c'était vraiment quelque chose de noble et c'était une mission avant tout personnelle et tournée vers autrui, vers les autres. Aujourd'hui, vous, en tant que réalisatrice de documentaires et votre vécu avec le monde du journalisme, quel regard vous portez sur la profession ? Parce que c'est vrai que dans le documentaire, ça a abordé cette question de la défiance envers la presse, qui est revenue aussi aujourd'hui dans notre époque contemporaine. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces deux époques-là ?
Comme je vous le disais au début, je viens d'une famille de journalistes, mais je ne suis pas journaliste. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment auteur-réalisatrice. Je n'ai pas de carte de presse. Il y a des documentaristes qui font des films avec des enquêtes, par exemple. Moi, ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. Par rapport à la profession de journaliste, du coup, je ne me prononcerai pas. Par contre, par rapport à ma profession de documentariste, oui, je fais des films militants engagés et politiques. Et donc, j'essaye, à mon niveau, de porter un regard et possiblement de donner une vision qui puisse interroger, au moins poser des questions aux spectateurs. Et est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à cette comparaison, par rapport à la période d'Albert Land, est-ce qu'aujourd'hui ce regard a plus d'influence par l'image que par l'écrit? C'est possible, ou par la radio.
Est-ce que vous le voyez comme un personnage courageux? Parce que c'est vrai qu'il s'est attaqué vraiment à tous les sujets, que ce soit le bagne en Guyane, la santé mentale, même la prostitution à Marseille. Est-ce que c'était un homme sans limite ?
Absolument, c'était un homme très courageux. Alors, la légende, donc, c'est une légende, raconte qu'il n'avait pas peur du danger, qu'il était limite inconscient. Quand on regarde les photos de 14-18, quand il est correspondant de guerre et qu'il est en France, quand il revient en France, dans la mission de presse, ils ont tous, ils sont une dizaine de correspondants de guerre, ils ont tous un casque et lui c'est le seul à ne pas en avoir. Donc il avait un côté à ne pas se protéger du danger et oui, très très courageux et très avec une volonté de faire. Opiniâtre, et ça fait partie de son courage, c'est-à-dire que quand il part par exemple en Russie en 1920, donc il va être le premier journaliste français à entrer dans ce pays complètement fermé, où personne n'est allé depuis la Révolution, il va mettre 52 jours et sillonner toute l'Europe pour avoir enfin un visa qui lui permette d'entrer. Donc c'est le courage qui passe aussi par le fait de jamais lâcher. À la fin de sa vie, je ne vais pas raconter tout le film, mais il y aura plus de difficultés à ce qu'il ait accès à ce qu'il souhaitait. Mais assez vite, comme il va être très connu, il va pouvoir travailler comme il le souhaite. Mais à chaque fois, autour de lui, beaucoup sont morts en fait, soit par les guerres, soit par les maladies. Quand il part en Asie, il y a beaucoup de ses camarades qui meurent de maladies tropicales. Donc oui, il prenait des risques considérables, et ne serait-ce que le fait de partir. Il n'a jamais pris l'avion, donc il prenait le train, beaucoup le bateau. Il a fait un nombre de traversées incroyables, et à chaque fois, quand on part en mer, à cette époque, jusqu'à aujourd'hui, on peut sombrer. Et quand il était courageux, par exemple, Dieudonné, donc un des bagnards qu'il rencontre lors de son reportage, qui va réussir à faire innocenter, il va partir juste au Brésil, aller le chercher. Donc il va faire un voyage de 50 jours, aller, 50 jours retour, pour aller chercher Dieudonné. Donc oui, et là, c'est un courage très fort et un engagement très puissant. Les conditions de sa mort, que je ne dévoilerai pas, racontent ça aussi sur le danger des transports.
Aujourd'hui, le personnage d'Albert Londres est rentré dans la postérité. Il y a ce fameux prix Albert Londres qui est très prestigieux. Pour faire une comparaison, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est un peu comme le Goncourt des journalistes.
Absolument.
Est-ce que Albert Londres représente un journalisme d'exception, comme on n'en fait plus trop aujourd'hui? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'immédiateté de l'information, beaucoup d'informations dites en direct sur les chaînes d'information en continu, par exemple, avec Internet, etc. Et lui, il représentait vraiment quelque chose de travailler, un travail, une recherche intellectuelle sur le temps long. Est-ce que Albert Londres, il est complètement dissonant avec l'époque d'aujourd'hui ?
Absolument, parce que à la fois, il avait une grande, contrairement aux journalistes aujourd'hui, puisque c'est un métier qui est en crise, c'est très difficile de changer de média. Lui n'a pas cessé de changer de journal, par exemple. Il a travaillé dans 7-8 journaux très facilement. Et c'est effectivement un modèle, parce qu'il avait du temps. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il partait 2 mois, 3 mois, 6 mois, 11 mois, et qu'aujourd'hui les journalistes n'ont plus en fait, et qu'il avait tout ce travail d'enquête en amont, tout ce travail d'enquête sur place, et au retour il avait plusieurs mois où écrire. Donc à ce titre, aujourd'hui je ne sais pas quel journaliste aurait cette possibilité de disposer d'un temps aussi incroyable pour préparer, enquêter, écrire. Et donc à ce titre, il est légendaire. Après, il y en a d'autres qui ont suivi, des très grands journalistes aussi, mais il est pionnier aussi dans cet engagement et dans cette foi dans la presse, et dans cette nécessité absolue d'informer, d'éduquer, d'ouvrir. Il savait qu'il écrivait pour des lecteurs qui n'iraient pas en Asie, en Afrique. C'était totalement inaccessible, les bateaux étaient beaucoup trop chers. Donc c'est des lecteurs qui jamais n'iraient là où il allait. Donc voilà, donc à ce titre, c'est assez incroyable comme capacité d'ouvrir et en fait de faire découvrir le monde à travers son regard.
L'Odyssée d'Albert Londres a été projetée dans le cadre du Festival du film d'histoire. Comment ça s'est passé, la rencontre avec le public ?
C'était un très très beau moment où il y a eu quelques questions, et je crois que beaucoup de spectateurs aussi ont été... ont appris notamment qu'il était photographe, puisqu'il y a des photos de lui et des photos de lui dans lesquelles il y a souvent son ombre. C'est toujours intéressant d'être confronté au public. J'ai l'impression que le public était étonné en fait de la densité de ce qu'il avait écrit, de la richesse, de la complexité, le fait qu'il soit sur tous les continents. Voilà, donc surpris de la richesse de son parcours, alors même que ces 2000 pages de câbles et reportages, il n'en reste que 6 pages.
Et une dernière question, que peut-on souhaiter au film ?
Qu'il soit vu, et notamment par la jeunesse.
Merci beaucoup, Valérie Mantz.
Merci à vous.